Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle petite émission. L'objectif, c'est d'ouvrir l'antenne à des populations largement méconnues et que l'on côtoie pourtant dans notre plus proche voisinage, donner la parole à ceux qu'on écoute peu d'ordinaire, démonter les poncifs, tenaces, destructeurs, montrer l'envers du décor et la plus-value formidable dont nous nous privons en méconnaissant des forces vives de notre société, la plus-value des silencieux, et faire reconnaître la qualité intrinsèque d'individus ou de groupes de gens plutôt que leurs défauts, prouver qu'ils sont tout autre chose que l'image qu'on véhicule, partager leur joyeuseté, leur talent, leur humanité, leurs problèmes, ce pourquoi on a envie de les suivre, dans leur grande pauvreté qui est peut-être aussi une immense richesse. Bienvenue dans votre émission et bienvenue à Sourire.
Bonjour.
Je présente en quelques mots, à moins que tu préfères te présenter toi-même.
Vas-y.
Donc, costaud, ouais. Tatoué, barbu et la trentaine.
Ça.
Voilà. Quand on s'est rencontrés... Bah, c'était le Covid, plein pot, devant des brochettes et devant un barbecue.
C'est ça.
Et on a commencé à parler forge, parce que c'est toi qui avais fait le barbecue, en fait.
Oui, c'est vrai, et les brochettes.
Et les brochettes. Mmh. Et donc, petit à petit, ce fil-là s'est noué sur l'art que tu avais presque, je dirais, au quotidien, sans du tout imaginer ensuite une profession. Mais tu travaillais le faire parce que c'était déjà ta passion.
Oui.
Un couteau chez un cousin, etc., etc. Raconte un petit peu comment ça, c'était à l'époque. Parce qu'ensuite, il y a eu moult expulsions et on racontera ensuite où tu habites aujourd'hui.
D'accord. Nous, en fait, je sors d'une famille de vanniers et de ferrailleurs. Du coup, on a toujours eu ce contact déjà avec la ferraille... juste c'est éloigné de la forge, tu veux, mais quand même t'as l'odeur, t'as cette sensation en main, c'est toujours la même, par contre, tu vois. Donc ça a toujours été là. Et puis après, effectivement, je commençais à fabriquer des forges pour commencer à amener la matière un peu là où je voulais, moi. Et quand on s'est rencontrés, effectivement, c'était les débuts de transformation de matière. Et puis petit à petit, j'ai voulu me spécialiser dans la coutellerie et j'ai vu que j'avais d'énormes lacunes, qu'il manquait beaucoup de choses. Et oui, et après j'ai voulu faire, pour aller plus loin, il a fallu que je fasse une école pour apprendre vraiment, pour comprendre, pour rentrer dans la matière et pour comprendre l'acier.
Alors on va parler de la trajectoire qui est genre mission impossible quand on essaie de décrocher une formation et qu'on n'est pas dans les tuyauteries administratives, etc., etc. Enfin, c'est d'une complexité sans nom, ça on va en reparler. Mais avant ça, ce serait intéressant qu'on sache où tu vis, comment tu vis, parce qu'entre le moment où je t'ai rencontré sur un campement illicite mais autorisé par les propriétaires, ouais, c'est-à-dire un accord sur lequel vous étiez déjà depuis un an, un commun accord. Mmh. Mais ensuite, il y a eu donc départ, et ensuite, il y a eu au moins 5 ou 6 camps.
Ah oui, facilement.
C'est-à-dire, explique un tout petit peu la manière dont... Parce que ta forge, elle te suivait quelque part.
C'était bien sûr, moi j'avais l'atelier mobile. Donc ouais, c'était un fourgon ménager pour faire la finition, pour faire le montage. Et puis toute la partie forge à l'extérieur. Donc à chaque fois, il fallait débarrasser le fourgon pour s'installer, forger. Nous, on n'a pas de chez nous. On n'a pas de chez nous malgré le fait qu'on en cherche. On essaye de se sédentariser, mais... On en reparlera, je pense, mais c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, depuis que j'ai commencé à forger, j'ai fait pas mal d'emplacements. Hein. Et puis maintenant, on a réussi... on était sur liste d'attente pour rentrer sur une aire des gens du voyage, donc de la commune de Portet-sur-Garonne. Donc on a eu le droit à la place. Elle est ce qu'elle est, mais au moins on est sur place et j'ai plus besoin de me trimballer ma forge partout. Donc c'est toujours dans un camion pizza... monter avec une cabane qui tient entre le camion et puis une caravane. La caravane sera le futur atelier pour le polissage à la pierre et les finitions fines, très fines. Donc voilà.
Et c'est là que tu vis donc ton atelier, ouais, à côté de la caravane avec
ton
épouse.
J'ai la caravane et puis je...
Tes deux enfants.
Il n'y a même pas 5 mètres pour arriver à l'atelier. Ouais. Je ne suis pas encore réveillé, je suis déjà assis dans l'atelier.
Donc tu as un bébé d'un an que tu cherches désespérément à faire dormir malgré tes coups sur l'enclume.
Ouais.
Ce qui est un peu, voilà, ton côté je veux tout. Et une petite fille qui est rentrée à l'école
l'année dernière
ouais. Alors que ton épouse, je me rappelle très très bien,
elle était réticente. Ouais.
Elle était plus que réticente. Elle disait, ouais. Si jamais on est obligé de mettre ma gamine à l'école, je serai au fond de la classe et je n'en bougerai pas ouais. Jusqu'à la fin. Parce que vous séparez des gamins, chez vous, c'est compliqué.
Et ouais, mais tu vois, c'est comme ça. Elle a changé et puis tant mieux. Moi, je suis très content parce que je vois que la petite, elle s'épanouit. Et même je vois la portée que ça a par rapport à ses cousins et même à ses tantes, tout ça, là, tu vois, je veux dire, ça leur donne envie de faire pareil, tu vois. Parce que la petite, elle est éveillée et puis ils voient que ça mène pas à rien, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui va.
On en reparle ça aussi juste après. Ouais. Je propose une petite pause musicale. Tu as choisi Lagrenet.
Ouais, Biril Lagrenet, ouais. Biril Lagrenet, Made in France. C'est comme nous, on est Made in France, tu vois.
Retour avec sourire, le forgeron, coutelier d'art. Made in France, oui, il y a un peu de confusion quand même dans la tête des Français par rapport à vous, la communauté des gens du voyage. Toi, tu es manouche, mais les gens souvent vous confondent vraiment et ne vous considèrent pas comme des Français.
Ouais, ben justement, il y a une façon d'amener le vocabulaire peut-être qui est... Les gens essayent de changer ça aussi, par exemple, de changer l'appellation gens du voyage par c'est quoi ? Citoyen itinérant, je crois. Tu vois ? Mais c'est toujours c'est pareil. On ne sait pas si ça sera des Sinti, on ne sait pas si ça sera des Manouches, on ne sait pas si ça sera des Gitans, on ne sait pas. Voilà. Donc oui, moi je suis Manouche de famille française, famille Duville. Donc on est là. Il y a des registres en mairie qui attestent qu'on est là depuis les années 1400 et quelques de patates, tu vois. Du coup, ça fait un bail qu'on est français.
Donc, d'une famille vraiment très, je dirais, authentiquement manouche.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tout le monde. Explique un petit peu d'où tu viens.
Ouais, par rapport, quand on dit manouche, tu veux, on pense vraiment, moi je dis authentique par rapport à la vision que le sédentaire, il peut avoir du manouche, en fait, parce que, effectivement, nous, on est une famille, on est les derniers à avoir les chevaux. On est encore les derniers à pratiquer beaucoup de vannerie, à faire du porte-à-porte, à chiner, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc la famille Duville, c'est ça.
Et puis c'est une enfance archi-chaotique, c'est peu de le dire.
Ben,
d'où tu viens, ça explique aussi
ouais,
où tu vas.
C'est pas l'entrée... c'est l'entrée en matière dans l'enfance, elle était super bien, parce que nous, c'était le rêve. On était déjà super bien vus par les sédentaires, il faut le dire. Parce que justement, il y avait les chevaux, donc il y avait cette image un petit peu poétique, tu veux. Donc les gens, ils avaient quand même tendance à beaucoup ouvrir plus facilement leur champ à nous qu'à d'autres. Et donc ouais, mon père, mes oncles, ma grand-mère, on avait un parcours en Touraine, qui allait de la Touraine, qui passait par la Sarthe, jusqu'au centre France pour remonter un petit peu dans le nord. Tous les ans, c'était le même parcours, et puis tous les ans, c'était les mêmes champs presque, tu vois. Parce que justement, on avait établi une confiance avec une relation de confiance avec les gens qui habitaient par là, quoi. Et ouais, l'enfance était super, tu veux dire. Parce que nous, on a vécu avec les bêtes, on était tout le temps dehors, c'était l'école buissonnière, tout le temps la pêche, tu vois. Je veux dire, on a...
Mais c'est tous les ingrédients de l'enfance que plus un seul enfant n'a. En main aujourd'hui,
bah
quasiment.
Ouais, c'est vrai que ça fait, peu, gens... ça fait que c'est, tu vois les enfants d'aujourd'hui, ça fait un peu peur, quoi.
Ça fait très peur.
Ouais, donc ça fait
un
mal au cœur parce qu'en plus,
moi
j'aime vraiment les enfants et puis putain, les voir grandir comme ça, c'est raide. C'est très raide.
Mais même les vôtres quelque part sont.
Ah, les nôtres aussi, bien sûr. Je parle des miens.
Explique comment donc les précarés de nature, c'est ça qui.
Ah ouais,
qui
moi je disais justement, on est installé maintenant sur une place désignée, donc une place qui a été. Dédié aux gens du voyage par la mairie. C'est un emplacement qui est obligatoire dans chaque commune de plus de 5000 habitants. Enfin bref. Donc nous, on est là-dessus. Et c'est. Tu as pu le voir, c'est un carré goudronné avec une barrière. Il y a une route qui passe au milieu et puis c'est tout, quoi. Tu vois, il y a. Je crois qu'on a 120 ou 150 mètres carrés chacun. Avec une grosse cabane en plein milieu, en dur, en béton, quoi. Donc. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, pour les petits, je sais pas ce qu'ils vont trouver de bien là-dedans, tu vois, je crois qu'il y a deux pauvres arbres sur la place, c'est le plein soleil, il y a plein vent, tu vois, plein de pluie, il y a rien, quoi, il y a rien. Et les gamins, ils peuvent pas se balader non plus, parce que tu sors de la place, t'es directement sur la route, dans la zone commerciale, dans la zone industrielle, les champs derrière, on a interdit d'accès, donc, voilà, il faut prendre la bagnole et les emmener plus loin, les gosses, tu vois, et puis, pas toujours le temps.
Ça, c'est quand même... On n'investit pas sur l'avenir, quoi. C'est ça qui est terrible, hein, sur cette enfance, sur laquelle aussi beaucoup d'enfants des villes sont contraints. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est un paillasson, hein, le jardin, souvent, pour beaucoup d'enfance, je dirais. Et c'est pas là que tu as puisé, toi, toute ta poétique, tout ton art, tout ce que tu vas développer ensuite, malgré les chaos de l'existence. Hein.
Ouais.
Ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous, donc... sur la deuxième émission, puisque celle-ci touche déjà à sa fin. Et là, on poursuit les thématiques dans une semaine.